C'est une parole de Jean-Baptiste qui a retenu mon attention pour ce matin. Une parole avec une très grande portée pour lui, mais aussi pour nous, quand nous l'appliquons à notre vie spirituelle. Cette parole se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, et je lis les versets 22 à 30. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là, il séjournait avec eux et baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau. On s'y rendait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise, et que tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » C'est cette parole qui m'a intéressé pour ce matin. Et j'aimerais maintenant, premièrement, considérer la réalité de cette parole pour Jean-Baptiste. Une parole historiquement vraie pour lui. Ce sera notre premier point. Tout commence par une discussion entre les disciples de Jean-Baptiste et un juif, dit le texte, dont l'identité ne nous est pas révélée. Une discussion au sujet de la purification. Verset 25, « Or il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. » Une discussion qui semble avoir vite tourné à la comparaison entre le baptême de Jean et celui pratiqué par Jésus. En effet, quand les disciples de Jean viennent le trouver, suite à la discussion avec ce juif, il ne parle pas de purification, mais du fait que Jésus baptise. Verset 26, « Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous vont à lui. » Notons ici que ce sont en fait les disciples de Jésus et non Jésus lui-même qui baptisaient, comme le souligne Jean dans son évangile quelques versets plus loin, au début du chapitre 4, verset 2, où nous lisons « Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. » Notons aussi que c'est le seul endroit dans les évangiles où il est fait mention que Jésus et ses disciples baptisaient. L'interrogation des disciples sur la purification s'est donc transformé en indignation au sujet du baptême pratiqué par les disciples de Jésus. Une indignation qui, en fait, ressemble beaucoup à de la jalousie. Voilà, aux yeux de ses disciples, quelqu'un que Jean a baptisé, qui était avec Jean-Baptiste au-delà du Jourdain, et qui lui fait maintenant une sorte de concurrence déloyale, qui marche sur ses plates-bandes, qui empiète sur son territoire, dit familièrement, qui lui pique des disciples pour les baptiser et en faire ses propres disciples. En effet, tous vont à lui, disent-ils, ce qui est une exagération, puisque Jean exerçait encore son ministère à l'époque. Le texte précise au verset 24 qu'il n'avait pas encore été jeté en prison. Voici, celui-là baptise. C'est ainsi que l'on peut littéralement traduire le texte grec ici. Une traduction littérale qui souligne bien, à mon sens, la jalousie et le ressentiment des disciples de Jean-Baptiste qui semblent avoir du mal à accepter le succès de Jésus et de ses disciples. Cette question de l'acceptation du succès des autres est parfois une réalité difficile à vivre. Elle l'est clairement ici, pour les disciples de Jean-Baptiste. Mais qu'en est-il de leur maître, de Jean-Baptiste? Comment lui voit-il la chose? Est-il lui aussi indigné, jaloux, contrarié par le succès évident de Jésus? En fait, pas du tout. Et la réponse qu'il donne à ses disciples est remarquable. Elle est pleine d'humilité, de maturité, de sagesse, pleine de l'Esprit de Dieu. Quel contraste avec ce que disent ses disciples. Que leur dit Jean? Loin de tirer à boulet rouge sur Jésus, Jean va l'élever. Il commence par rappeler au verset 27 que personne ne peut posséder autre chose que ce qu'il a reçu du ciel. Sans doute une façon de dire que ce que lui et Jésus ont reçu vient de Dieu et que chacun ne donne finalement que ce qu'il a reçu. Il n'y a là aucune matière à s'offusquer. Puis Jean-Baptiste souligne et rappelle, comme il l'a déjà dit auparavant, qu'il n'est pas le Christ, pas le Messie attendu. C'est Jésus qui est le Christ. Lui n'est que son précurseur, celui qui avait été envoyé devant lui, verset 28, celui qui prépare son chemin, celui qui a été envoyé par Dieu pour cela. Sa mission est donc de tout faire pour que le ministère du Messie puisse advenir et se développer dans les meilleures conditions possibles. C'est d'ailleurs ce que souligne la métaphore qu'il emploie ensuite au verset 29. Verset 29, celui qui a l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Une métaphore avec trois personnages, l'époux, l'épouse et l'ami de l'époux. L'époux, c'est bien évidemment le Christ. L'épouse, c'est le véritable peuple de Dieu, le véritable Israël, fiancé à Dieu et que l'époux vient chercher. L'image, cette image, vient de l'Ancien Testament qu'il utilise à de nombreuses reprises. Et puis l'ami de l'époux, c'est Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste n'est que l'ami de l'époux. L'épouse n'est pas pour lui, mais pour l'époux, pour le Messie, pour Jésus. Il est donc normal que le moment venu, l'ami de l'époux se retire, dit Jean. Dans la culture de l'époque, c'était l'ami de l'époux qui organisait et présidait le mariage. C'est lui qui était sur le devant de la scène jusqu'à ce que tout soit prêt. Ensuite, il s'effaçait tout naturellement pour laisser la place à l'époux. C'est bien ce que Jean est en train de faire. Avec Jésus, avec l'époux, il a bien compris son rôle et sa place. Il assiste en ami au triomphe d'un amour dont il n'est pas l'objet. Et pour lui, s'effacer est une grande joie et non une contrainte ou un crève-cœur, car il a tout mis en œuvre pour que l'épouse soit donnée à l'époux. Pourquoi s'offusquerait-il qu'elle aille à lui, que tous aillent à Jésus ? Oui, Jean a bien compris sa place et son rôle. Il n'est que l'ami de l'époux, celui qui, après avoir tout préparé, se retire avec joie car la tâche est accomplie. C'est pourquoi il termine en disant « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Autrement dit, il est normal que Jésus prenne maintenant le devant de la scène. C'est dans l'ordre des choses, c'est dans la volonté souveraine de Dieu, dans son plan. Il faut, dit Jean, car Jésus est le Messie, dont il n'a fait que préparer le chemin. Cette réponse de Jean est vraiment remarquable. Pourquoi ? Bien sûr, car elle est pleine d'humilité. Et si elle est pleine d'humilité, c'est parce que Jean avait bien compris qui était qui. Qui était l'époux et qui était l'ami de l'époux. Il avait bien compris sa place et le plan de Dieu. Il en est toujours ainsi dans le royaume de Dieu. C'est quand nous sommes à notre place, c'est quand nous comprenons notre rôle dans le plan de Dieu que nous sommes en mesure d'accepter sa volonté avec joie quand vient l'heure de passer la main. C'est bien ce que Jean-Baptiste est sur le point de faire. Il sait que le moment de se retirer est venu. Il savait qu'il n'occuperait le devant de la scène que pour un temps. Il savait qu'après lui viendrait celui qui est bien plus grand que lui et dont il se sait indigne de délier la courroie de ses souliers. Il savait que viendrait un jour le moment où il faudrait passer le relais, le moment où les projecteurs ne se braqueraient plus sur lui, mais sur le Christ. Mais ce que Jean-Baptiste ne savait pas, c'est que cela se ferait de manière tragique. En effet, peu de temps après cet épisode, Jean se fera arrêter par Hérode et mettre en prison. Il y restera jusqu'à ce qu'il soit mis à mort. Oui, c'est le roi Hérode qui fera arrêter Jean-Baptiste et le fera mettre en prison. Pourquoi ? Parce que Jean avait osé dénoncer l'adultère commis par le roi. En effet, Hérode avait pris pour femme Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Dans Matthieu 14, nous lisons qu'Hérode aurait voulu faire mourir Jean, mais qu'il avait peur de la foule qui le tenait pour un prophète. C'est ainsi que Jean-Baptiste est resté en prison jusqu'à l'anniversaire du roi Hérode. À cette occasion, la fille d'Hérodiade fit une danse au milieu des convives qui plut à Hérode, au point qu'il promit, en faisant un vœu, de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle demanda la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Hérode fut attristé, dit le texte, mais à cause de son serment et des convives, il ne put faire marche arrière. C'est ainsi que Jean-Baptiste fut décapité. Il n'était bien évidemment pas nécessaire que les choses se passent aussi tragiquement pour que Jean diminue et que Jésus croisse. Mais tel était le chemin que Dieu a permis pour Jean-Baptiste. Quoi qu'il en soit, et c'est ce qu'il faut retenir, Jean a su s'effacer le moment venu. Il a su laisser la place au Seigneur. Il a su diminuer pour que lui grandisse. Cette parole a bien été historiquement vraie pour lui. Et il nous laisse un bel exemple à suivre. J'aimerais maintenant que nous réfléchissions au sens que cette parole pourrait avoir pour chacun de nous. Il y a le sens premier de notre texte, le sens historique pour Jean-Baptiste, tel que nous venons de le considérer. Et puis il y a, par application à la vie chrétienne, le sens spirituel que nous pouvons donner à cette parole. C'est notre deuxième point, une parole qui doit être spirituellement vraie pour le disciple de Jésus. En effet, dans la vie chrétienne, il faut que Christ grandisse en moi et que je diminue. C'est l'enjeu qui est au cœur de la vie chrétienne. C'est ce qu'on peut appeler par ailleurs la sanctification. Et c'est un combat qui est loin d'être facile. Pourquoi ? Parce que ce qui doit diminuer en moi, c'est la chair. Et la chair ne s'avoue jamais vaincue. La chair doit être comprise ici au sens figuré comme étant la nature humaine qui s'oppose à Dieu. Paul écrit aux Romains chapitre 7 verset 18 « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans la chair. » La chair, c'est donc simplement notre vieille nature, notre nature pécheresse, entachée, dominée par le péché, notre moi sans Dieu. C'est ce que nous sommes en vertu de notre naissance naturelle. C'est ce que nous sommes en Adam. Cette chair est notre nature humaine à tous, le tronc commun de l'humanité. Notons bien qu'il n'y a pas de connotation sexuelle dans cette expression, malgré un usage courant dans ce sens. Voilà donc ce qui doit diminuer en nous, la chair, pour que Christ puisse grandir en nous. Quand nous venons à Jésus par la foi, c'est-à-dire lors de notre conversion, nous recevons une nouvelle nature qui correspond à la venue de l'Esprit-Saint en nous pour y faire sa demeure. Mais cette venue n'est pas une substitution. Ce n'est pas le remplacement d'une nature par une autre. C'est en fait une cohabitation. Et c'est ainsi que le chrétien se retrouve au milieu d'un tiraillement, d'une guerre ouverte, qu'il ne pouvait imaginer et qui parfois peut vraiment le déstabiliser. C'est la réalité décrite par l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 7, quand il dit par exemple qu'il ne fait pas le bien qu'il veut et qu'il pratique le mal qu'il ne veut pas. Oui, il y a dans le chrétien la cohabitation de deux natures fondamentalement opposées. La chair, dit Paul dans Galates 5, verset 17 et Romains 8, verset 5, a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Si la chair cherche constamment à nous éloigner de Dieu et de sa volonté pour nous, l'Esprit de Dieu en nous, quant à lui, œuvre inlassablement à faire grandir Christ en nous, à notre transformation à l'image de Christ. Son œuvre en nous est de nous rendre semblables à Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans Romains 8, verset 29, que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ici, deux options s'offrent à nous. Soit cette transformation à l'image de Christ se fera uniquement et totalement lors du retour de Jésus, soit elle commence à se faire dès maintenant et sera achevée et rendue parfaite lors du retour de Jésus. Je pense que nous avons de bonnes raisons bibliques de penser que cette transformation commence dès ici-bas, qu'elle correspond à l'œuvre de sanctification de l'Esprit en nous à laquelle nous collaborons et qu'elle sera achevée et rendue parfaite au jour de Jésus-Christ. Quelques textes pour étayer cela. Premièrement, Philippiens 1, verset 6, où Paul écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ ». Deuxièmement, Éphésiens 4, versets 12 et 13, où Paul parle de l'utilité de certains ministères dans l'Église pour, dit-il, le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Troisièmement, 1 Jean 3, verset 2, où l'apôtre écrit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Oui, par l'action de l'Esprit de Dieu en nous, nous commençons à être transformés dès ici-bas à l'image de Christ. Et cela jusqu'au jour de Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous le voyions tel qu'il est, jusqu'à ce que nous parvenions à la mesure de la stature parfaite du Christ. Le plan de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils soient transformés à l'image de son Fils. Mais pour l'heure, la transformation est loin d'être achevée. Pour l'heure, tout est encore en chantier. Pour l'heure, c'est un combat qu'il nous faut mener jour après jour. Un combat qui consiste à faire diminuer l'influence de la chair en nous pour que Christ grandisse en nous. Ce combat à mener se traduit par des choix à faire. Soit vivre par la chair en satisfaisant ses désirs et en accomplissant ses œuvres, soit vivre par l'Esprit en obéissant à Dieu. Ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu a fait sa demeure en moi que je vais forcément toujours choisir de vivre par l'Esprit. Il peut arriver que je fasse le choix de la chair, d'accomplir les œuvres de la chair, de satisfaire la chair plutôt que l'Esprit. C'est toute la tension de Romains 7 dont nous avons déjà parlé. Oui, ce combat de la sanctification implique que nous fassions des choix, que nous fassions le choix de marcher par l'Esprit. C'est ce que Paul écrit dans Galates 5. Au verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Verset 16, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les œuvres de la chair. » Ce choix de marcher par l'Esprit, nous pouvons le faire pour deux raisons essentielles. Premièrement, parce que nous avons crucifié notre chair, dit Paul. Il le dit aux Galates, chapitre 5, verset 24. « Ceux qui sont en Christ Jésus, dit-il, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Une précision tout d'abord. Il ne s'agit pas ici de la crucifixion qui a été faite pour nous en Christ, notre représentant, quand Paul dit par exemple dans Galates au chapitre 2 verset 20 et dans Romains 6 verset 6 que nous avons été crucifiés avec le Christ. Cette crucifixion-là est le fait de notre union avec le Christ par la foi. Parce que je suis uni au Christ par la foi, je suis associé à sa crucifixion et au bénéfice de ses mérites. Mais ici, dans le verset de Galates 5, verset 24, c'est nous qui agissons. L'action est active. Paul dit « on crucifié ». Alors que dans les autres textes, « nous avons été crucifiés », c'est une action passive. Il ne s'agit pas ici de la mort que nous avons expérimentée en vertu de notre union avec le Christ, mais plutôt d'une mise à mort délibérée. Ce qui est visé ici, c'est ce qui est fait par nous, grâce à Dieu. Alors comment comprendre les choses ? Quand nous nous tournons vers le Christ, nous nous repentons et nous rompons délibérément avec la chair, ses passions et ses désirs. Nous crucifions la chair, ses passions et ses désirs. C'est pourquoi Paul peut dire « on crucifié la chair avec ses passions et ses désirs ». En choisissant le Christ, nous avons crucifié notre chair. Mais le processus est long. Le processus de crucifixion, comme dans les vraies crucifixions. Et en fait, ce processus dure toute notre vie chrétienne. Ne pas accomplir les œuvres de la chair, c'est vivre en cohérence avec ce choix initial que nous avons fait quand nous avons décidé de suivre le Christ. Et c'est pour rester dans la même image, ne pas descendre notre chair crucifiée de sa croix. Paul emprunte certainement ici l'image de la crucifixion à la déclaration de Jésus faite à plusieurs reprises dans les évangiles. « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Prendre sa croix était pour Jésus une image pour exprimer le renoncement à soi. Maintenant, Paul tire la conclusion logique de cette métaphore. Nous devons non seulement porter notre croix et marcher avec, mais aussi veiller à ce que l'exécution de notre chair aille au bout, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Nous devons rester vigilants au risque que la chair reprenne le dessus et se manifeste dans notre vie par ses œuvres. Le seul traitement approprié pour notre chair est la crucifixion. Pas de courtoisie, pas de négociation. Nous l'avons crucifiée quand nous avons décidé de suivre le Christ. Ce choix de marcher par l'Esprit, nous pouvons le faire deuxièmement, car nous avons reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui œuvre en nous. L'Esprit de Dieu qui désire les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu qui me rend capable de marcher de progrès en progrès et qui me rend capable de résister aux désirs et aux passions de la chair. Et que se passe-t-il quand je fais le choix de marcher par l'Esprit ? Il se passe que son fruit peut alors grandir en moi. Il se passe que le caractère de Christ est alors formé en moi. Beaucoup de commentateurs considèrent, à juste titre, à mon sens, que la formation du caractère de Christ en nous se fait par la croissance du fruit de l'Esprit en nous. Ainsi, nous pouvons considérer que les différents aspects du fruit de l'Esprit correspondent aux vertus de Christ en nous, à la formation de son caractère dans notre vie, dans la vie du croyant. Nous connaissons les 9 parties du fruit de l'Esprit, telles que Paul les cite dans Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. » Et quand ces choses grandissent en nous, c'est Christ qui grandit en nous. Il croît et nous diminuons. C'est logique et facile à comprendre. Mais si c'est la chair qui grandit, si c'est la chair que je choisis, si c'est la chair qui reprend le dessus, alors c'est Christ qui diminue. C'est aussi logique et facile à comprendre. En tant que chrétiens, nous voulons tous que Christ grandisse en nous. Mais parfois, nous ne sommes pas prêts à sacrifier certains désirs de la chair. C'est ici que nous devons nous souvenir que c'est ce que nous avons choisi de faire en nous mettant à la suite du Christ. Et c'est d'ailleurs ce que Christ nous demande. Oui, la suivance du Christ implique des renoncements à faire. Nous l'avons déjà mentionné, il faut mourir à soi-même, il faut porter sa croix, il faut perdre sa vie pour que Christ grandisse en nous. Est-ce que cela veut dire alors que nous sommes appelés à une vie de frustration en suivant Jésus ? Non, au contraire. Non, parce que c'est dans la ressemblance à Jésus que nous trouvons un épanouissement à nul autre semblable. Diminuer la chair, ce n'est pas choisir une vie misérable, ennuyeuse, mais c'est choisir la vie en abondance. Celle qui exalte Christ, celle qui donne un tout autre sens à notre vie, celle qui satisfait nos attentes les plus profondes. Car la formation de l'image de Christ en nous, ce n'est rien d'autre que la restauration de l'image de Dieu à laquelle nous avons été créés et qui a été abîmée par la chute. En Christ, nous retrouvons ce qui a été perdu et abîmé dans le jardin d'Éden. Tout ce que nous venons de dire est vrai de la vie chrétienne en général. Mais j'aimerais terminer en soulignant rapidement 2 aspects où cela est vrai d'une manière particulière. Et je pense premièrement au domaine de notre service pour le Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est le servir. C'est l'essence même de la vie de disciple. Et nous devons sans cesse nous rappeler que c'est le Christ que nous devons servir et jamais nous-mêmes. C'est sa gloire que nous devons rechercher et pas la nôtre. C'est sa lumière qui doit briller et non la nôtre. Ce dont nous avons le plus besoin pour servir le Seigneur, c'est d'humilité, de modération, pour que lui puisse prendre la place qui lui revient. L'exhortation de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 12, verset 3, est pertinente ici, quand il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. » De toute façon, qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu ? Et si nous l'avons reçu, pourquoi nous en glorifierions-nous ? Pourquoi agirions-nous comme si tout venait de nous ? Si nous comprenons ces choses, nous serons en mesure de servir le Seigneur avec humilité et joie. Surtout, nous serons en mesure, le moment venu, quand il faudra passer le relais ou faire de la place à d'autres, de le faire avec joie. Avec joie car l'œuvre du Seigneur se poursuit, avec joie car la relève est assurée, avec joie car le succès des autres dans le royaume de Dieu n'est jamais de la concurrence, mais toujours le signe de la grâce de Dieu. Le deuxième aspect de la vie chrétienne où tout ce que nous avons dit s'applique d'une manière particulière, c'est celui des personnes auxquelles nous témoignons, puis que nous accompagnons vers le Seigneur. C'est toujours une grande joie de pouvoir le faire, et aussi une grâce. Mais nous devons toujours garder à l'esprit que le but, c'est que ces personnes s'attachent au Seigneur et pas à nous. Le but, ce n'est pas de les rendre dépendantes de nous, mais du Seigneur. Ainsi, il y a toujours un moment dans notre accompagnement où nous devons diminuer pour que Christ prenne toute sa place. Ainsi, nous aussi, d'une certaine manière, nous préparons le chemin du Seigneur et nous nous retirons le moment venu. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Chers frères et sœurs, chers amis, Jésus a le droit de régner sur la vie de ses disciples et il veut le faire en grandissant dans leur vie. Si nous sommes disciples du Seigneur, lui laissons-nous, lui laisserons-nous la place, toute la place qui lui revient ? Cela ne se fait pas une fois pour toutes, mais tout au long de notre marche avec le Seigneur, avec parfois des hauts et des bas, mais toujours avec la grâce de Dieu. Nous devons constamment travailler à diminuer notre chair pour que Christ grandisse en nous. C'est notre espoir suprême, comme le dit le petit chœur que nous chantons parfois. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Que le Seigneur nous fasse cette grâce jour après jour, pour sa gloire et pour notre bonheur. Amen.